Chers frères et sœurs, je voudrais vous entretenir ce matin d'un symbole qu'utilise l'Écriture et qui est très riche d'enseignements pour notre compréhension des voies de Dieu. Et c'est le symbole du sceau, le fait de sceller, de marquer quelque chose. C'était quelque chose de très courant dans l'Antiquité, et en particulier à l'époque de Jésus et des apôtres. Mais de nos jours encore, on place des scellés qui attestent l'inviolabilité de quelque chose. Par exemple, des scellés placés sur une maison ou sur un document important. Je ne sais pas d'ailleurs si les sujets du baccalauréat ont toujours des scellés, mais apparemment il y a eu des problèmes. Alors, on va considérer quelques sujets de l'Écriture qui parlent de ce symbole. Je vous propose de regarder dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, au verset 11. Épître aux Romains, chapitre 4, verset 11. Il reçut, le « il » c'est Abraham, le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Ce que je veux relever dans ce passage, c'est le sceau mis par Dieu sur Abraham. Ce sceau est matérialisé à cette époque-là par la circoncision, un signe, une attestation que Dieu l'a déclaré juste et que cette justice est le salaire, la récompense de sa foi. C'est un acte souverain de Dieu, basé sur la seule foi d'Abraham et aucunement sur une œuvre quelconque qu'il aurait faite. Sinon, qu'il avait fait confiance à Dieu, ce que Paul s'attache à démontrer dans tout ce chapitre. Un deuxième passage dans la deuxième aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Les versets 21 et 22. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous, dit Paul, en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Paul dit ici que lui et ses compagnons, les chrétiens de Corinthe auxquels il écrit, ont été marqués du sceau de Dieu. Tout comme Abraham, mais avec le signe de la circoncision qui était pour l'ancienne alliance. Tout comme Abraham, mais sans le signe de la circoncision qui, lui, était pour l'ancienne alliance, excusez-moi. Mais il met ce sceau en rapport avec une œuvre de Dieu extraordinaire. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Pourquoi des arts? Parce que ces arts nous garantissent un héritage complet, mais futur, avec Christ. Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous pouvons déjà en profiter durant notre pèlerinage terrestre vers le ciel. Le sceau dont il est question ici, c'est donc le don du Saint-Esprit. Cette personne divine qui nous a fait naître d'en haut et qui désormais vit en nous. Un troisième passage dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Au verset 13, Épître aux Éphésiens, chapitre 1, au verset 13. Paul dit donc aux chrétiens d'Éphèse, « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. des hommes et des femmes de la ville d'Éphèse, et nous aussi, avons entendu la parole de la vérité, l'Évangile, et comme eux, nous l'avons cru. Et sur cette base, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Ce sceau, là encore, est la preuve solide et parfaitement fiable de notre héritage. L'assurance que nous sommes rachetés. Le prix de ce rachat a été payé intégralement à la croix par Christ lorsqu'il a expié à notre place nos péchés en les prenant à son compte. Nous n'y sommes pour rien. Si ce n'est la foi que nous avons mise dans l'œuvre de Christ en notre faveur. Et même cette foi n'est que le fruit de la grâce prévenante de Dieu envers nous. Le sceau que l'on utilisait dans l'Antiquité pour marquer des biens, des marchandises, indiquait qui en était le propriétaire et garantissait également l'état correct du contenu. Nous sommes désormais, du jour où nous avons cru, la propriété du Dieu vivant. C'est une des plus belles images, mais il y en a d'autres, de l'assurance de notre salut. Dans la même épître aux Éphésiens, un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 30. Éphésiens 4, au verset 30, l'apôtre dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul utilise donc de nouveau cette image du sceau du Saint-Esprit sur nous, mais cette fois-ci pour nous enjoindre de ne pas attrister cette personne divine qui vit en nous. Nous sommes scellés, nous sommes la propriété indéfectible de Dieu, mais malheureusement, nous pouvons, malgré cela, attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire que notre conduite peut le décevoir, peut lui déplaire. Nous sommes donc exhortés par notre vie, par les choix que nous faisons, à ne pas attrister cette personne divine et sainte qui nous habite désormais, le Saint-Esprit lui-même. Bien au contraire, nous sommes exhortés à lui donner les clés de la maison, à le laisser diriger notre existence, ce qui, à coup sûr, nous mènera sur le chemin de la sanctification, une vie sainte, une vie qui plaît au Seigneur. Un autre passage dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, au verset 19. Paul dit « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Le fondement posé par Dieu dont il est question ici, c'est l'enseignement que Timothée avait reçu de Paul et que Timothée était exhorté à transmettre à son tour. Dans la même épître, Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » C'est tout simplement l'Évangile, la base de notre salut. Mais nous voyons dans ce verset que le Seigneur marque d'un sceau à deux facettes son Évangile. Le premier de ces sceaux, c'est « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ». Le verbe « connaître » doit être bien compris dans ce contexte. D'une part, Paul l'employait ici à un temps qui, dans la langue originale, implique une action ponctuelle et le plus souvent passée. On pourrait traduire « le Seigneur a connu ceux qui lui appartiennent », donc une sorte d'homologation acquise. D'autre part, le verbe traduit par « connaître » avait un sens plus profond qu'une simple connaissance intellectuelle, qu'une simple information, mais de connaître intimement. Il y a une relation étroite entre celui qui connaît, c'est-à-dire Dieu, et la personne connue, c'est-à-dire nous. Le contexte de ce passage est celui d'une église où œuvrait Timothée, dans laquelle s'étaient introduits de mauvais enseignants, qui se complaisaient dans des disputes de mots, des discours vains et profanes, selon la façon dont Paul les qualifie, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent, dont les paroles rongent comme la gangrène. On emploie des termes forts. La gangrène, c'est la mort d'un membre, hein, et qui renverse la foi de quelques-uns. Et Paul rappelle là à Timothée que le Seigneur, au milieu de ce désordre, connaît ceux qui lui appartiennent. Aux yeux des hommes, ces faux docteurs peuvent paraître très spirituels, mais Dieu lui distingue parfaitement les siens. La deuxième facette de ce sceau, c'est « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Je cite à ce propos John Stott, vous savez, le théologien anglais bien connu, qui a écrit « Le premier de ces sceaux est secret et invisible. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et il saura les garder sains et saufs pour toujours. Le second est public et visible. Que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du mal. Qu'il prouve ainsi par sa sainteté qu'il appartient au Seigneur. Bien que nous ne puissions pas voir dans les cœurs, nous pouvons voir la vie, qui est la preuve évidente de la condition du cœur. Or, elle est apparente pour tous. Les deux sceaux, je dirais les deux facettes du sceau, sont essentielles, le divin et l'humain, l'invisible et le visible. Ensemble, ils portent témoignage au solide fondement de Dieu, à sa vraie Église. » Voilà ce que dit John Stott sur ce verset. Nous retrouvons cette image du sceau divin aussi dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Et nous allons voir qu'on retrouve ces deux notions, de la propriété de Dieu et de la responsabilité humaine. D'abord, dans Apocalypse chapitre 7, alors vous savez que l'Apocalypse est un livre difficile, plein de symboles, mais qui est quand même bien précieux. Et qui s'éclaire justement parce que cette notion du sceau, on la retrouve là encore. Apocalypse chapitre 7, je vais lire les versets 1 à 4. Après cela, je vis quatre anges, debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la mer et à la terre, « Ne faites pas de mal à la mer, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des Israélites. Un peu plus loin, au chapitre 9, on retrouve un texte presque semblable, Apocalypse 9, versets 1 à 4. Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des criquets sortirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Donc un malheur, hein. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'ont pas sur le front le sceau de Dieu. On voit donc dans ces deux passages très, très proches, hein, très parallèles, qui se ressemblent beaucoup, que Dieu fait marquer de son sceau des hommes, afin de les préserver de malheurs qui symbolisent le jugement de Dieu sur l'humanité pécheresse. Des gens qui échappent à ce jugement parce qu'ils sont marqués de ce sceau. Et on va retrouver ces scellés, ces gens marqués du sceau, au chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. On va lire là aussi 5 versets. Apocalypse 14, verset 1. « Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme le bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un fort tonnerre, et le son que j'entendis était comme celui de joueurs de lyre jouant de leurs instruments. Ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les humains comme prémisse pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Ils sont sans défaut. » Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui donc les 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 6, nous lisons « Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout. » On retrouve cette notion de cet agneau debout et là Jean rajoute « qui était comme immolé. » C'est quand même curieux. Un agneau immolé, il n'est pas debout d'habitude. Hein? Mais cet agneau est debout. Il est immolé, mais il est debout. Image de sa résurrection. Et donc, on a lu, au chapitre 14, que personne ne peut apprendre le cantique, là, des 144 000, si ce n'est, justement, ces 144 000 qui ont été achetés de la terre. Eux seuls peuvent louer le Seigneur. Ce chiffre de 144 000 est évidemment symbolique et représente tous les rachetés de Dieu. On voit qu'ils sont marqués du sceau de Dieu sur leur front et que ce sceau est le signe non seulement qu'ils sont la propriété de Dieu, mais que Dieu les protège. Les protège de tout ce qui pourrait leur faire du mal. Il s'agit certainement d'une protection spirituelle. Dieu protège ses enfants des puissances spirituelles de méchanceté, symbolisées ici par les quatre vents et les quatre anges, les sauterelles aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve, mais que la victoire finale est assurée. On retrouve donc dans cette image la sécurité éternelle du croyant, de l'enfant de Dieu. Mais vous avez vu qu'il y a une seconde, on retrouve aussi la seconde facette du sceau de Dieu, dont sont marqués ces 144 000. Qu'est-ce qui les caractérise? Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes car ils sont vierges. Ces paroles sont évidemment symboliques, car tout l'enseignement de l'Écriture élimine la notion de souillure dans les relations sexuelles telles qu'elles sont approuvées et même encouragées par Dieu dans le cadre du mariage. Le sens de ce passage est que ces croyants, qui sont la propriété de Dieu, se sont eux-mêmes gardés purs de toute relation qui souille avec le monde païen. Et notamment, ils ont résisté aux séductions de la grande prostituée dont il est question un peu plus loin dans le même livre. C'est une virginité spirituelle. Ils vivent selon ce qu'implique leur fiançaille avec Christ. Et c'est ce que Paul dit sous une forme très proche dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 11 au verset 2. Paul écrit à ses frères de Corinthe, « Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé à un seul homme, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » L'Église est présentée ici comme la fiancée du Christ, et elle se garde pure pour lui. Nous avons donc, frères et sœurs, une double vérité contenue dans ce sceau de Dieu, dont par grâce nous sommes marqués pour tous ceux qui ont cru au sacrifice de Christ pour nous, pour leurs péchés. D'une part, c'est le titre de propriété de Dieu sur nous. Ce titre de propriété nous garantit une sécurité éternelle. En d'autres termes, l'assurance que Dieu nous gardera jusqu'au bout et nous fera hériter de la vie éternelle et de tout ce qui l'accompagne. Cet héritage extraordinaire que nous avons quelque peine à imaginer et dont l'Esprit Saint lui-même est le garant. Alors, ne nous laissons pas intimider par l'ennemi qui voudrait trop nous persuader que nous sommes indignes de cette vie. C'est un mensonge, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il est menteur dès le commencement et le père du mensonge. Mais ce sceau comporte une facette qui nous incombe avec l'aide du Seigneur. Se garder pur des séductions du monde, c'est-à-dire du péché, y compris des séductions spirituelles dont la grande prostituée, qui est décrite dans l'Apocalypse, est le symbole. Suivre l'agneau partout où il va. Sommes-nous prêts à suivre Christ en toutes circonstances? Pas de mensonges dans leur bouche. C'est tellement clair que ça se passe de commentaires. Ils sont irréprochables. Nous savons bien que nous ne sommes pas. Mais notre maître l'est, et nous sommes exhortés à l'imiter. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est Pierre qui dit ça dans sa première épître, au verset 15 et 16, et en fait, il cite le livre du Lévitique. Je vous propose de prier ensemble. Sois béni, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous as marqué de ton sceau, le sceau du Saint-Esprit, le sceau du Dieu vivant. Nous sommes désormais ta propriété. Tu nous assures par là de nous faire persévérer jusqu'au bout pendant toute notre carrière chrétienne, parce que tu en as payé le prix par Jésus-Christ. Sois béni aussi de cette image qui nous fait comprendre ce qui s'attache à ce sceau. Tu attends de nous que nous n'attristions pas ton esprit, que tu conduises nos vies, que nous nous gardions purs du mal, comme cette vierge chaste qui attend d'épouser son céleste époux. Seigneur, veuille nous aider, d'une part, à prendre conscience de ces notions, à nous appuyer sur elles pour notre repos, je puis dire, mais aussi la responsabilité qui s'y attache, de te suivre partout où tu vas. Souvent, nous hésitons, nous sommes un peu tremblants quand il faut te suivre. Tes disciples l'étaient, eux aussi, mais ils te suivaient quand même. Ô Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous la force de te suivre et de t'honorer par notre vie terrestre. Dans le nom de Jésus, amen.